Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition Le Monde Aujourd'hui du 11 octobre 2019. Et Kabadou à la présentation. Voici les titres. Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019. L'action du Premier ministre éthiopien en faveur du rapprochement de son pays avec l'Érythrée est saluée à travers le monde. En République démocratique du Congo, la tension monte à Kinshasa après la disparition d'un avion qui assurait la logistique d'un déplacement du chef de l'État. 8 personnes étaient à bord. 267 000 personnes ont fui leur foyer dans le nord et l'est du Burkina Faso ces 3 derniers mois. Conséquence des attaques djihadistes selon le HCR. Et puis le face-à-face inédit, c'est ce soir en Tunisie. Kais Saied et Nabil Karoui, les deux candidats à la présidentielle, débattront en direct à la télévision. La campagne s'achève ce vendredi soir et juste après le journal dans 10 minutes, ce sera l'actualité économique et les sports. Le prix Nobel de la paix attribué aujourd'hui au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation spectaculaire avec l'Érythrée. Il a aussi mis en place de nombreuses réformes, clairement un gibourg.
À 43 ans, Abiy Ahmed est le plus jeune dirigeant africain au pouvoir depuis 18 mois seulement. Le Premier ministre s'est dit honoré et ravi et il a salué un prix donné à l'Afrique. Monsieur Abiy est récompensé pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée voisine, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien. Salué comme un visionnaire et réformateur, le jeune dirigeant, issu d'une famille pauvre, a ainsi insufflé un certain optimisme dans la région. Ce prix a été salué à travers le monde. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, rend hommage aux efforts historiques d'Abiy Ahmed pour construire la paix. Uhuru Kenyatta, le président kényan, salue un champion implacable de la paix, tandis qu'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, affirme que son leadership est un exemple formidable pour tous les pays d'Afrique et d'ailleurs qui cherchent à faire passer l'intérêt de la population en premier.
Le gouvernement congolais a ouvert une enquête après le crash jeudi après-midi d'un avion cargo affrété par la présidence de la République pour ramener à Kinshasa la logistique ayant servi à la tournée du président Félix Tshisekedi à Bukavu et à Beni dans l'est de la RDC. Ce drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes, notamment le chauffeur personnel du chef de l'État congolais, a provoqué la colère de ces militants qui ont manifesté dans les rues de Kinshasa. Les détails avec Thierry Kabundi, notre correspondant à Kinshasa.
C'est dans le village de Kasese, dans la province du Maniema, qu'ont été retrouvés les débris de l'avion assurant la logistique du déplacement du président Félix Tshisekedi. Parti de Goma jeudi à 13h32 heure locale, l'appareil a perdu tout contact avec le centre de contrôle 59 minutes après son décollage, selon un communiqué de l'autorité de l'aviation civile. Le même communiqué évoque un bilan de 8 morts. 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires. Mais des sources parallèles proches de la présidence de la République renseignent que l'avion avait à son bord près de 27 personnes, dont une dizaine des militaires de la garde présidentielle, 9 collaborateurs civils et quelques véhicules de la présidence de la République. La présidence qui par ailleurs confirme le décès dans ce même crash du chauffeur principal du président Félix Tshisekedi. Ce drame a provoqué une manifestation des militants de l'UDPS Tshisekedi qui, en colère, se sont déversés sur le boulevard Lumumba, brûlant des pneus et scandant des chants anti-Kabila. Ce crash de l'avion est une façon d'intimider le président de la République après son engagement pris à Beni pour lutter contre l'insécurité dans l'est de la RDC. Nous ne laisserons personne s'en prendre au chef de l'État, a dit l'un d'eux. Kinshasa, Thierry Kambundi pour VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, 3 soldats congolais et 2 assaillants ont été tués ce vendredi lors d'affrontements avec des miliciens d'un groupe sécessionniste à Lubumbashi, deuxième ville du pays selon des sources militaires. Au Nigeria, au moins 2 soldats tchadiens ont été tués dans des échanges de tirs entre des éléments de la force régionale et des djihadistes dans le nord-est du pays. C'est ce qu'affirment des sources civiles et sécuritaires. Le chiffre de 267 000 personnes, c'est le chiffre de personnes qui ont fui les attaques djihadistes dans le nord et l'est du Burkina Faso en 3 mois, portant le nombre de déplacés réfugiés à 486 000. C'est ce qu'annonce le HCR, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. En Guinée, les députés d'opposition ont décidé de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale pour protester contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de faire réviser la Constitution pour briguer un troisième mandat à 3 jours de manifestations considérées à haut risque. Au Zimbabwe, la justice a déclaré illégal la grève des médecins du public dont le mouvement perturbe les hôpitaux depuis plus de 5 semaines. Le tribunal de travail d'Harare leur ordonne de reprendre le travail dans les 48 heures. C'est un débat inédit qui attend les Tunisiens ce soir, à 2 jours du second tour de la présidentielle dimanche. L'homme d'affaires Nabil Karoui et l'universitaire Kais Saïd s'affrontent ce soir dans un débat télévisé historique. Les précisions avec Yacouba Ouedraogo.
Ce débat va opposer ce soir Nabil Karoui, tout juste sorti de prison, à Kais Saïd. C'est un rendez-vous inédit en Tunisie et rare dans le monde arabe. L'homme d'affaires va tenter de rattraper le retard qu'il affichait dans les sondages. Il a prévu se rendre dans sa ville natale de Bizerte avant un grand meeting en plein centre de Tunis. Face à lui, l'universitaire Saïd, aussi attendu dans le centre de la capitale pour un dernier rassemblement. Ce face-à-face clôt une campagne marquée par la libération mercredi de Nabil Karoui, incarcéré depuis 1 mois. D'après Salsabil Klibi, enseignante en droit constitutionnel, si l'homme d'affaires remporte la présidentielle, il bénéficiera de l'immunité et toutes les poursuites judiciaires à son encontre seront suspendues jusqu'à la fin de son mandat. Dimanche, ce sera la 3e fois en 1 mois que les 7 millions d'électeurs se rendent aux urnes. Les précédents scrutins ont laissé entrevoir le ras-le-bol de la classe politique qui peine à répondre aux attentes sociales de la population 9 ans après la révolution.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de Californiens étaient visés ce vendredi par un ordre d'évacuation face à un important incendie qui s'est déclaré dans le nord de Los Angeles, la côte est, et qui a fait un mort selon un premier bilan. L'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne va témoigner devant les élus enquêtant dans le cadre d'une procédure de destitution contre le président républicain Donald Trump malgré l'interdiction du département d'État. Les précisions avec Bagassi Koura.
Les démocrates menant l'enquête à la Chambre des représentants lui avaient adressé mercredi une assignation afin de l'interroger sur l'affaire ukrainienne qui vaut au président républicain d'être menacé par cette procédure explosive. Proche de Donald Trump, cet homme d'affaires qui a fait fortune dans le secteur hôtelier compte répondre pleinement et honnêtement aux questions des commissions, indiquent ses avocats. L'annonce du témoignage de l'ambassadeur Sondland intervient alors que l'ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Marie Yovanovitch, était attendue au Congrès pour une audition ce matin. Elle avait été rappelée soudainement à Washington en mai. Les démocrates qui supervisent l'enquête en vue d'une procédure de destitution contre Donald Trump ont exigé jeudi la coopération de 2 hommes d'affaires proches de l'avocat du président arrêté dans une procédure distincte alors qu'ils allaient quitter les États-Unis, Lev Parnas et Igor Fruman, des citoyens américains nés en Ukraine et en Biélorussie, ont été interpellés mercredi soir à l'aéroport international de Washington, munis d'un aller simple pour une destination à l'étranger, a révélé la police fédérale.
En Turquie, 2 personnes ont été tuées dans le sud du pays par la chute d'obus en provenance de la Syrie, portant à 8 le nombre de civils tués dans le pays depuis le début d'une offensive turque menée contre des milices, selon des médias. De son côté, la Turquie a indiqué qu'elle ne stoppera pas l'opération qu'elle met dans Syrie contre une milice kurde soutenue par l'Occident. C'est ce qu'a affirmé le président Recep Tayyip Erdogan, rejetant les menaces en ce sens. Donald Trump a autorisé sans toutefois les activer pour l'instant des sanctions très fermes contre la Turquie. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse le secrétaire au Trésor américain, Stephen Mnuchin. Donald Trump a l'intention de signer un décret pour dissuader la Turquie de toute poursuite de son offensive militaire dans le nord-est de la Syrie, a déclaré le Trésor américain. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco avec Nani Talani. Le Nigeria compte s'associer au Cameroun pour former un bloc régional qui négociera avec les importateurs de leur cacao une meilleure prime en faveur des exploitants, rapporte Reuters. Des négociants s'interrogent sur la viabilité de cette alliance en raison de l'absence au Nigeria d'une autorité centrale de gestion de la filière à l'image du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Le Nigeria, quatrième producteur mondial du cacao, devrait produire 305 000 tonnes de fèves en 2019-2020. En Côte d'Ivoire, les travaux du métro d'Abidjan débuteront en 2020 pour une mise en service en 2024, soit peu après la Coupe d'Afrique des Nations de football que le pays abritera en 2023, annonce l'agence Ecofin. Évalué à 1,36 milliard d'euros, ce projet ultramoderne améliorera considérablement le transport et facilitera les activités économiques. Il devrait générer 2000 emplois. Long de 37 km, le métro d'Abidjan reliera la commune d'Anyama à celle de Port-Boué avec plusieurs stations d'arrêt sur son itinéraire en transportant environ 530 000 passagers par jour. Pour terminer, la Zambie devrait rembourser 2,8 milliards de kwacha, soit 215 millions de dollars, à de grandes sociétés minières en remboursement de la TVA, bien que ces sociétés minières réclament 4,955 milliards de kwacha supplémentaires. Le gouvernement envisage de rencontrer les sociétés minières concernées afin de convenir du mode de paiement des remboursements en suspens.
C'est l'heure de notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Début hier des journées FIFA du mois d'octobre.
Oui, beaucoup de matchs pour cette trêve internationale qui court jusqu'au 15 octobre. Le Burkina Faso a perdu 1-0 devant le Gabon du nouveau sélectionneur Patrice Neveu, dont l'équipe a été amenée par le capitaine des Panthères, ravi de retrouver sa sélection, Pierre-Emerick Aubameyang.
C'est une nouvelle dynamique, on repart avec beaucoup d'ambition. Avant tout, on veut énormément travailler. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de revanchard. Ça ne s'est pas bien passé ces derniers temps, donc j'ai envie de changer cette image de moi que j'ai peut-être en sélection.
Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine du Gabon en face, le Burkina Faso a perdu, mais son capitaine Charles Kabouré dit avoir vu de belles choses dans le contenu de la rencontre.
La combativité, l'engagement de l'équipe, l'application dans les derniers gestes, je pense qu'on a un bon groupe et les jeunes qui nous ont rejoints et les anciens qui sont là, on essaie de s'entendre entre nous sur le terrain, de combiner, de parler.
Charles Kabouré, capitaine du Burkina Faso. Toujours hier, la République démocratique du Congo et l'Algérie se sont neutralisés 1-1. Même score entre le Congo voisin et la Thaïlande. Le Sénégal a accroché le Brésil 1-1 à Singapour. 1-1 également entre le Niger et la Zambie. Le Togo lui est tombé 1-2 devant le Cap-Vert.
Ces matchs amicaux vont se poursuivre ce week-end.
Ce seront les deuxièmes sorties pour certaines formations et dès demain, la Guinée fera face aux Comores. Les matchs sont beaucoup plus concentrés dimanche avec notamment le choc entre le Nigeria et le Brésil à Singapour. Un autre grand rendez-vous opposera la Colombie à l'Algérie à Lille. La Tunisie joue le Cameroun à Rades. La Côte d'Ivoire fera face à la République démocratique du Congo à Amiens. Le Bénin défie la Zambie à Porto Novo. Le Rwanda reçoit la Tanzanie, le Niger, la Centrafrique. À suivre aussi Afrique du Sud, Mali à Port-Elisabeth ou encore Éthiopie, Ouganda.
La FIFA va soutenir la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.
La FIFA va organiser un grand événement l'an prochain pour récolter des fonds et sensibiliser à la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. D'après son président Gianni Infantino, cette annonce intervient au lendemain d'une conférence organisée à Lyon où le président Emmanuel Macron a annoncé que l'objectif des 14 milliards de dollars a été atteint pour le refinancement du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Hyper androgénie, 25 sportifs français exigent des explications.
Nous, athlètes français de haut niveau, exprimons notre sidération et voulons des explications. Ont écrit dans une lettre ouverte les auteurs dont la double championne du monde de taekwondo, Gladys Epangué, le quintuple champion du monde de natation, Fabien Gillot, et la triple championne du monde de judo, Jevrise Eman. Les signataires s'appuient sur un reportage diffusé par la chaîne allemande ARD, où une athlète ougandaise hyperandrogène, Annette Negissa, privée des Jeux Olympiques de 2012 pour un taux de testostérone naturel anormal, dit avoir subi, sans en avoir été avertie, une opération d'ablation des organes génitaux internes. Ces 25 sportifs réclament des explications à la Fédération internationale d'athlétisme, au Comité interolympique et en France au ministère des Sports.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et voafrique.com et Kiabadou toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'attribution du prix Nobel de la paix au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour son action en faveur du rapprochement de son pays avec l'Érythrée a été saluée à travers le monde comme une juste récompense à un homme de courage. Un avis que partage Gad Abel Didé, enseignant-chercheur en philosophie politique à l'université d'Abomey Kalavi au Bénin.
Je suis heureux pour lui et je suis heureux également pour l'Afrique parce que cela fait des années successives que l'Afrique est récompensée, que les efforts qui sont faits pour la paix en Afrique sont reconnus et cela est à saluer.
Qu'est-ce qui, à votre avis, a milité en sa faveur?
Ce sont les efforts qu'il a eu à faire pour la paix aussi bien dans son pays que dans sa région. À l'interne, il a inauguré une politique d'ouverture, une politique d'inclusion qui rompt totalement avec les politiques d'exclusion pratiquées par ses prédécesseurs. Il a rompu avec l'autoritarisme, a cherché à normaliser la vie politique en posant des actes concrets pour renforcer par exemple le système partisan. Il a libéré des milliers de prisonniers politiques et lever les mesures d'interdiction qui pesaient sur certaines formations politiques. Au pas externe, il a cherché à renouer le fil du dialogue africain avec les pays voisins et même l'Érythrée. Et même si la frontière rouverte est refermée quelques temps après, cet effort, cette tentative de normalisation de la situation entre son pays et l'Érythrée, qui est également à saluer, il y a, je crois, les efforts qu'il a déployés également dans la résolution de certaines crises, par exemple entre le Kenya et la Somalie, ou encore les conflits internes au niveau du Soudan.
Mais alors, que représente ce prix pour le continent africain?
Ce que représente pour le continent africain à la fois un encouragement et un défi. Un encouragement parce que les efforts qui sont faits doivent aboutir à des résultats patents. Le Premier ministre éthiopien doit pouvoir saisir le sens de cette attribution et continuer à fournir beaucoup plus d'efforts pour que les résultats soient durables, les résultats en faveur de la paix, pour la paix soient durables. Ensuite, c'est un défi parce que encourager quand même les Africains sur des années successives pourrait nous amener à croire que l'Afrique a fait un bond de qualité. Cela représente un grand défi, le défi de poursuivre, le défi de continuer dans le même sens, le défi de ne pas reculer.
Gad Abel Didé, enseignant, chercheur en philosophie politique à l'université d'Abomey Kalavi au Bénin, joint à Cotonou par Irénée Armanombo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
267 000 personnes ont fui les attaques djihadistes dans le nord et l'est du Burkina Faso en 3 mois, portant le nombre de déplacés et réfugiés à 486 000. C'est ce qu'a annoncé le HCR. Les provinces de San Matinga et Soum accueillent 329 000 d'entre eux et 16 000 autres sont réfugiés dans les pays voisins. Des civils ont fait état de plus de 500 morts lors des attaques depuis l'an dernier. Pour en savoir plus sur ce déplacement massif, Nathalie Barre a joint à Dakar le porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Romain Desclous.
On est à ce jour à quasiment 500 000 personnes forcées de fuir au Burkina Faso et pour certains à chercher la protection et l'asile des autres côtés des frontières. C'est 267 000 au cours des 3 derniers mois, ce qui est une progression qui est impressionnante et qui nous oblige à trouver des réponses parce que ces personnes ont des besoins en matière de protection, d'une part, mais ont besoin d'eau, de nourriture, d'abri, d'accès à la santé. Et c'est ce pourquoi, justement, avec 11 autres directeurs d'agences des Nations Unies et d'ONG, ce matin, nous avons lancé un appel pour que la communauté internationale se mobilise pour apporter cette aide qui est essentielle.
Quelles sont les zones en particulier qui sont touchées par ces attaques et ces déplacements?
Les personnes que nous avons rencontrées on fuit les violences et le conflit dans le nord et l'est du pays. Ils se retrouvent souvent forcés de fuir plusieurs fois, parce que les premiers déplacements ne leur ont pas permis de s'éloigner suffisamment loin des violences, et donc font des déplacements secondaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans le dénuement le plus complet. Ils sont forcés d'être accueillis dans des sites de transit, ou bénéficient de la générosité de communautés d'accueil, qui elles-mêmes ne sont parmi les plus démunis aussi. Donc l'assistance, l'aide que nous devons pouvoir être en mesure de donner, doit s'adresser également à ces communautés qui font preuve d'extrême générosité pour les accueillir.
Alors est-ce que le HCR peut travailler dans de bonnes conditions dans ces régions actuellement ?
L'accès humanitaire est un défi, et pas uniquement au Burkina Faso, dans l'ensemble du Sahel. D'ailleurs, avec les gouvernements des pays du Sahel, le Burkina Faso d'une part, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, sont engagés à mettre la protection et l'accès humanitaire au centre de leur réponse régionale. Cette semaine, justement, dans le cadre de la réunion exécutive du HCR.
Alors on sait que les djihadistes s'attaquent à beaucoup d'écoles et que de nombreux enfants ne peuvent plus aller à l'école. Est-ce que le HCR, avec ses partenaires, organise notamment des moyens pour que ces enfants puissent continuer leur éducation ?
C'est ce sur quoi justement nous travaillons avec nos partenaires, avec les autorités, pour nous assurer que dans la mesure du possible, ces enfants déplacés sont en mesure d'accéder aux écoles quand il y en a. Et là encore, c'est tout le problème. Comment faire en sorte que l'éducation reste une priorité, demeure sacrée, parce que pour ces personnes forcées de fuir, l'éducation sera pour ces enfants le seul moyen d'avoir un espoir et un avenir.
En ce qui concerne les autres personnes vulnérables, notamment les femmes, est-ce que vous avez des dispositifs particuliers, en tout cas pour répondre à cette demande, et quelles sont les conditions des femmes dans ces régions à cause de ces attaques djihadistes ?
Les femmes, les jeunes filles, sont parmi en effet les personnes les plus vulnérables parce que l'accès à la santé n'est plus assuré, l'accès à la santé reproductive, la vulnérabilité vis-à-vis des violences sexuelles sont également prémanentes. Donc ce sur quoi nous nous engageons, c'est de faire en sorte que nous soyons en mesure d'une part d'assurer une certaine protection de ces femmes sur cette question et d'une part s'assurer que les autres partenaires, que les autorités soient au courant de faire en sorte que toutes les opérations, toutes les réponses prennent en compte cet élément crucial de la protection des femmes et des jeunes femmes.
Romain Desclous, porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, joint à Dakar.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Ce 11 octobre marque la journée internationale de la fille. Chaque année, l'UNICEF s'efforce d'aider les filles à défendre leurs droits et à mieux faire entendre leur voix en cette journée. Cette année, l'UNICEF Niger a interrogé les jeunes nigériennes sur leurs rêves et leurs défis quotidiens. Écoutez Ilaria Kanevali, représentante de l'UNICEF au Niger.
Tout ce que nous entendons des filles est une source d'inspiration majeure. Parce que nous voyons des filles avec beaucoup d'énergie, beaucoup de capacités d'analyser la réalité, beaucoup de rêves. Et donc, elles reconnaissent les difficultés en fait, auxquelles certaines fois ils font face, mais aussi elles se projettent dans le futur. Et pour moi, c'est une métaphore de comment on voit la question de la fille au Niger aujourd'hui, aussi bien que la question de l'éducation des filles, qui bien sûr est absolument centrale à l'épanouissement des filles et à la réalisation de leurs rêves.
Alors justement, en parlant d'éducation, quels sont les programmes que l'UNICEF, que vous avez mis en place au Niger ?
Bien sûr, pouvoir aller à l'école est maintenant une réalité pour beaucoup plus d'enfants au Niger, depuis d'importants investissements que le pays a effectués depuis 2013. En fait, le nombre d'enfants inscrits à l'école primaire a augmenté de 20%, mais il faut quand même reconnaître que les filles au Niger sont encore plus déscolarisées que les garçons. 56% environ des filles qui ne sont pas, en fait, à l'école. Donc, c'est pour cela que quand on regarde la question de l'éducation des filles, il faut la regarder dans toute son ampleur. La question du maintien des filles à l'école, c'est aussi toute une question des normes sociales qui font que 3 filles sur 4 sont mariées avant l'âge de 18 ans et 1 fille sur 4 avant l'âge de 15 ans. Donc il y a un lien très très important entre l'éducation et la prévalence du mariage des enfants au Niger. Donc pour nous, vraiment l'important appel, disons, c'est la nécessité qu'aujourd'hui, que c'est la journée internationale de la fille, nous devons vraiment tous réfléchir sur qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de chaque acteur, au niveau de chaque individu, pour offrir la possibilité à chaque fille la chance d'aller à l'école, de poursuivre ses études, de poursuivre ses propres rêves, parce que quand une fille gagne, c'est toute la communauté qui gagne. Donc chacun de nous doit s'engager à ne pas interrompre l'enfance des filles par les mariages, par la violence, l'exploitation, la discrimination et vraiment opérer pour que ça ne se produise jamais dans les communautés. Nous devons travailler pour faire tomber les barrières érigées par les stéréotypes, l'exclusion auxquelles la fille souvent est confrontée et offrir vraiment à la fille davantage d'occasions de faire entendre sa voix, plus d'espace à l'intérieur du système éducatif, mais aussi dans les sociétés, dans les communautés, pour qu'elle participe aux décisions qui la concernent.
Hilaria Carnevelli, représentante de l'UNICEF au Niger, interrogée par Claire Morin-Gibourg.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Nigeria, environ 70% de la population vit dans des zones surpeuplées et pauvres, dépourvues de commodités de base. Le pays est en manque de plus de 22 millions de logements selon l'ONU. À Abuja, la correspondance de Gilbert Tamba.
Nous sommes à Kishiri. Les habitants de ces grands quartiers se battent au quotidien pour se frayer un chemin dans ces ghettos bondés de monde. Ici, les gens sont très pauvres. Frade vit dans ces quartiers depuis une vingtaine d'années.
Je vis ici à Guichiri parce que je n'ai pas le choix. C'est l'endroit où vivent les pauvres. Vous me comprenez? Parce que je n'ai pas les moyens d'aller vivre dans le centre-ville. Quand Dieu va répondre à ma prière, tout ira bien.
La capitale nigériane, Abuja, est pourtant l'une des plus belles d'Afrique de l'Ouest. Mais chaque année, plusieurs centaines de personnes arrivent de la campagne à la recherche d'un emploi, ce qui accentue cette pénurie de logements. Yahaya Ramajoy habite aussi ces quartiers.
Les maisons d'ici ne sont pas du standard, comme vous le voyez. Les écoles et tout le reste, rien n'est bon. Nous ne sommes pas contents. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour l'eau, la route et tous les autres besoins.
Une situation qui devient de plus en plus grave et la population du pays continue de croître plus vite que la capacité de construire de nouveaux logements. La crise du logement et les frais de loyer élevés dans la capitale poussent ainsi les habitants les plus pauvres à construire leurs propres baraques. Les risques sanitaires encourus par ces habitants sont élevés. Des passages récemment au Nigeria, une délégation onusienne conduite par Leilani Fera, rapporteure spéciale des Nations Unies sur le logement, a décrit les conditions de certains établissements informels au Nigeria d'inhumaines et peut-être les pires du monde.
Nous estimons à 22 millions de logements en déficit dans ce pays. En d'autres termes, il y a un manque de 22 millions de logements. Donc au moins 69 à 70% de la population urbaine vit dans des habitations informelles.
Malgré les efforts des autorités, les résultats souhaités par les Nigériens dans le domaine du logement se font attendre. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Cheikh Tchérou était à la mise en onde, Rob McLean à la console et Kiabadou à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique. VOA